mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce spécial Wrestle Rock Podcast sur le club des 27. C'est-à-dire une liste de grands artistes qui sont morts durant leur gloire à l'âge de seulement 27 ans. Mon nom est Benoît Laferrière, a.k.a. Nostradaben, et je suis en compagnie de Jonathan Drapeau. Comment tu vas, Jo?
Ça va bien, mon Ben, en fond?
Oh, numéro un.
Yes! Hey, ça va faire du bien, cher auditeur, je pense. De replonger un peu dans la musique. Là, on vous avait un peu délaissé ça, mais il s'est passé tellement de circonstances qui ont fait en sorte là, qu'on a dû un peu mettre ça de côté. Là. On pense à l'événement du 6 mars à Montréal.
Ouais, exactement.
On a eu aussi récemment le décès de Scott Hall. Donc, on vous invite à aller regarder nos deux vidéos
hommage. Ouais, en deux parties.
Et puis, c'est très intéressant. Alors, mon nom est Jonathan Drapeau et puis vous écoutez le spécial du Club des 27. Et puis ça commence comme suit.
Bon, je peux faire une petite intro. Vous savez que le Club des 27, qui est également connu sous le nom de Forever 27 Club, 27 Club ou le Club 27, est le surnom donné à un groupe d'artistes de la chanson qui ont la particularité d'être tous malheureusement décédés à l'âge de 27 ans. C'est quand même jeune. Alors ce soir, on a décidé de faire une émission spéciale sur ce tristement célèbre club qui continue de marquer nos générations de par la musique et la figure emblématique de chacun et chacune des membres depuis plusieurs années. Voici les sept membres qu'on a jugés bons de mentionner.
Oui, exactement, cher auditeur, parce que...
Je crois que tu en as plusieurs, d'une autre trentaine.
Oui, c'est ça, exactement. Mais on a pris là, ceux qui se démarquaient, puis que c'était comme les plus populaires, puis ceux qui ont dans le milieu du milieu artistique. C'est eux qui sortaient plus du
lot. En tout cas, les plus souvent cités entre 1938 et 2011.
Effectivement.
Donc,
le premier membre de cette fameuse liste est le défunt Robert Leroy Johnson, dit Robert Johnson. Mm-hmm. Il est né le 8 mai 1911, excusez-moi, je vais peut-être le dire mal, à Hazelhurst, au Mississippi. Et il est mort le 16 août 1938 à Greenwood, Mississippi aussi. Fait que dans le fond, il a passé une grande majorité de sa vie dans le Mississippi.
Oui, c'est ça.
Et puis, ce qui fait de lui qu'il est décédé à l'âge de 27 ans, puisque tous les gens, comme mon collègue vient de le dire, est décédé à 27 ans, mais 100 jours, lui, dans le fond.
Ouais, 100 jours.
Il était connu pour être un guitariste et chanteur de blues américain, l'un des artistes ayant le plus d'influence de l'histoire de cette musique. Bien qu'il n'ait commencé à enregistrer des disques environ 2 ans seulement avant sa mort, c'est-à-dire en 1936, Robert Johnson est devenu une légende et une grande source d'inspiration pour plusieurs chanteurs et artistes renommés comme Jimi Hendrix, qu'on va parler tantôt, Jimmy Page, Bob Dylan, Brian Jones, Keith Richards et le grand Eric Clapton.
Exactement. Johnson est malheureusement décédé le 16 août 1938 à l'âge de 27 ans, près de Greenwood au Mississippi, comme mentionné plus haut, de cause officieusement inconnue. Sa mort n'a pas été signalée publiquement. Il a simplement disparu des archives historiques musicales et ce n'est qu'environ 30 ans plus tard, lorsque Gail Dean Wardlow, une historienne de la musique basée au Mississippi, faisant des recherches sur la vie de Johnson, a trouvé son certificat de décès et dans ce certificat, il y avait seulement que la date et le lieu sans cause officielle du décès.
C'est comme s'il n'y avait pas de coroner qui avait passé sur les lieux pour genre officialiser la mort.
C'est vrai que dans ce temps-là, c'était plus... Ouais, à ce temps, tu meurs, tu as un certificat de décès, c'est bien
ça. Ouais, ben c'était en 38 aussi.
Ouais, ça date depuis quoi, 85 ans. Aucune autopsie formelle n'a été pratiquée. Au lieu de cela, un examen pro forma a été effectué, ce qui signifie que de manière superficielle, afin de répondre à la demande minimale ou pour se conformer à une convention. On peut également l'utiliser pour désigner un document incomplet, probable qu'il souffrait de la maladie vénérienne appelée la syphilis congénitale et que des professionnels de la santé ont soupçonné plus tard cette ITS d'avoir contribué à sa mort. Cependant, 30 ans de légende locale et de tradition orale avaient, comme le reste de l'histoire sur ses vies, construit d'une légende qui a comblé des lacunes dans les rares archives historiques.
Plusieurs récits différents ont décrit les événements qui ont précédé sa mort. Johnson jouait depuis quelques années un dance country dans une ville à environ 24 km de Greenwood. Selon une hypothèse, Johnson est assassiné, a été assassiné par le mari jaloux d'une femme avec qui il avait couché. Dans un récit, un musicien de blues, Sonny Boy Williamson, Johnson avait flirté avec une femme mariée lors d'un bal et elle lui a donné une bouteille de whisky empoisonnée par son mari jaloux de ce flirt. Fait que dans le fond, en gros, ben, y a comme deux hypothèses sur sa mort. Fait que tu sais, soit qu'il serait mort d'une maladie vénérienne,
ouais, la syphilis,
ou genre d'une jalousie, dans le fond.
Ouais, un mari cocu, là, genre.
Ouais, c'est ça. Ensuite de ça, dans le fond, il est mort dans un état convulsif de douleur intense. L'expert en musique, Robert Mac McCormick, a affirmé avoir retrouvé l'homme qui a assassiné Johnson et a avoir obtenu des aveux concrets de lui lors d'un entretien personnel, mais il a refusé de divulguer le nom de l'homme en question.
Alors que la strychnine a été suggérée comme le poison qui a tué Johnson, au moins un universitaire a contesté cette notion. Tom Graves, dans son livre intitulé Crossroads, The Life and Afterlife of Blues Legend Robert Johnson, s'appuie sur des témoignages d'experts en toxicologie pour affirmer que la strychnine a une odeur et un goût si particuliers qu'elle ne peut pas être camouflée même dans du fort. Graves affirme également qu'une quantité importante de strychnine devrait être consommée en une seule fois seulement pour être mortelle et que la mort du poison se produirait en quelques heures seulement et non pas en quelques jours.
C'est comme un genre de poison à rat, là, genre, là. Full fort.
Oui, exactement.
En Saint-Anne, c'est pareil. Dans leur livre de 2019, Up Jump the Devil, Bruce Confort et Gail Dean Wardlow suggèrent que le poison était du naphtaline. Naphtaline, c'est dans le fond le produit mortel.
Oui, naphtaline.
C'est ça. Provenant des boulamites, tu sais, l'odeur des boulamites. Mais ça aurait peut-être plus de sens, ça, tu sais, en tout cas. C'était une façon courante d'empoisonner le monde, surtout dans les régions rurales du Sud. Mais ce n'était pas souvent fatal. Cependant, Johnson avait été diagnostiqué avec des ulcères et des varices dans l'estomac, en fond. Puis le poison était suffisamment fort pour provoquer une hémorragie interne. Il est décédé après 2 jours de douleurs abdominales intenses, de vomissements et de saignements de la bouche. Colin, c'était intense, pareil.
Le registraire du comté de Loeffler, Cornelia Jordan, des années plus tard et après avoir mené une enquête sur la mort de Johnson pour le directeur d'État des statistiques de l'État civil, R.N. Whitfield, a écrit une note de clarification au dos du certificat de décès de Johnson.
Yes. J'ai parlé avec l'homme blanc...
C'est une citation, là.
Ouais, c'est une citation.
On a censuré les mauvais mots racistes, là.
Ce black est mort et j'ai aussi parlé avec un black sur place. Le propriétaire de la plantation a déclaré que l'homme black, apparemment âgé d'environ 26 ans, était venu du Tunica 2 ou 3 semaines avant sa mort pour jouer du banjo lors d'une danse donnée là-bas sur la plantation. Il est resté dans la maison avec certains congénères en disant qu'il voulait cueillir le coton. L'homme blanc n'avait pas de médecin pour cette personne noire, car il n'avait pas travaillé pour lui. Il a été enterré dans un cercueil de fabricant artisanal fourni par le comté. Le propriétaire de la plantation a déclaré que, son avis, l'homme était mort de syphilis.
En 2006, un médecin, David Connell, a suggéré sur la base de photographies montrant les doigts anormalement longs et un mauvais œil de Johnson que Johnson pouvait avoir le syndrome de Marfan, qui aurait pu à la fois affecter son jeu de guitare et contribuer à son décès par dissection aortique.
Ouch! C'est intense, ben. Alors, passons maintenant au second membre du Club des 27. Il s'agit de Louis Brian Hopkins Jones, dit Brian Jones, né le 28 février 1942 à Gloucester.
Ouais, Cheltenham
est mort le 3 juillet 1969 à Hartfield. Excusez-moi, cher auditeur, il y a des mots des fois qui sont un peu plus durs à dire. Ce qui a fait qu'il est mort, lui, à 27 ans, lui aussi, mais à 125 jours. Il est connu comme étant le fondateur et le multi-instrumentiste des Rolling Stones, groupe de musique dans lequel il a joué de 1962 à 1969.
Ouais, la date de sa mort.
Et à la base, guitariste, il jouait de l'harmonica, dans le fond, puis Brian Jones devient très habile avec beaucoup d'autres instruments de musique comme par exemple à partir de l'album 1966 nommé Aftermath. Il intègre à de nombreux titres des instruments alors peu communs dans le rock and roll comme de la flûte, du dulcimer, de la sitar puis du mellotron. Le point culminant de cet instrument élargi est éteint dans l'album Their Satanist Majesty's Request de 1967. Puis, il influence énormément la musique des Stones dans leur première période. Là,
les 8 premières années de leur existence. Vers minuit, dans la nuit du 2 au 3 juillet 1969, Jones a été découvert immobile au fond de sa piscine à Cotford Farm. Sa copine d'origine suédoise, Anna Wallin, était persuadée qu'il était toujours vivant lorsqu'il a été sorti de la piscine, insistant sur le fait que son pouls battait encore. Cependant, au moment où le personnel médical est arrivé sur les lieux, il était déjà trop tard. Pour sauver l'artiste, il a été déclaré mort dès son arrivée à l'hôpital à l'âge, tristement, de 27 ans. Certains organes de Jones, dont son foie, son cœur, étaient considérablement hypertrophiés, c'est-à-dire plus gros que leur taille normale, ce qui est les conséquences d'abus de drogue et d'alcool durant sa courte période de vie.
Oui, parce qu'on se souvient, à cette époque-là, ça brassait.
Ouais, le tap et send love, ça fumait des joints.
C'est les Rolling Stones, ça brassait. Puis là, ils sont plus tranquilles, ils sont rendus vieux.
Ouais,
mais tu sais, à l'époque, ils étaient renommés. Là, c'était des durs de durs. Le rock'n'roll, c'était pas facile dans ce temps-là. Ouais,
exactement.
Exact. Lors de la mort de Jones, le membre du groupe de The Who, Pete Townshend, a rédigé un poème intitulé « A Normal Day for Brian ». A Man Who Died Every Day, qui fut imprimé dans le Times Magazine. Dans le fond. Le musicien Jimi Hendrix, lui, a dédié une chanson à la télévision américaine et Jim Morrison, le chanteur des Doors, a publié un poème intitulé How to Helly While Thinking of Brian Jones Deceased. Ironiquement, Hendrix et Morrison sont tous les deux décédé dans les années qui ont suivi, dans le fond, cette parution.
70-71, à l'âge de 27 ans, autour aussi. Donc, y a-t-il une malédiction pour quand t'as 27 ans?
C'est ça
que je me demande. Les Rolling Stones ont joué lors d'un concert gratuit à Hyde Park le 5 juillet 69, ce qui veut dire 2 jours après le décès de leur ami M. Jones. Le groupe a décidé de dédier le concert qui avait été programmé quelques semaines plus tôt pour en profiter afin de présenter leur nouveau guitariste Mick Taylor à Jones. Avant le tournage des Stones, Jagger a lu les extraits de Adonais, un poème de Percy Bysshe Shelley sur le décès de son ami John Keats, et les machinistes ont sorti des centaines de papillons blancs dans le cadre de l'hommage. Le groupe a débuté avec une chanson de Johnny Winter qui était l'une des chansons favorites de Jones, I'm Yours and I'm Hers.
Jones aurait été enterré à 10 pieds, soit 3 mètres de profondeur, dans le cimetière de Cheltenham pour empêcher l'exhumation par les chasseurs de trophées. Son corps a été embaumé avec des cheveux décolorés en blanc.
C'est bizarre ça.
Et a été placé dans une tombe hermétique en argent et en bronze. Watts et Wyman étant les seuls membres des Rolling Stones qui ont assisté aux funérailles. C'est bizarre, pareil.
Ouais, mais là, la suite, ça explique.
Puis Mick Jagger et Marianne Faithfull se rendaient en Australie pour commencer le tournage de Ned Kelly. Ils ont déclaré que l'engagement de leur contrat ne leur permettait pas de retarder le voyage pour assister aux funérailles de Jones. Ça me semble que c'est louche.
Ah, c'est sûr. Il y avait-tu de quoi à cacher, je sais pas.
Ouais, c'est beau.
Lorsqu'on lui a posé la question, il se sentait coupable de la mort de Jones. Mick Jagger a déclaré à Rolling Stones en 95, et je cite, Rolling Stones Magazine.
Oui, oui.
Et je cite, non, pas vraiment. Je pense que je me suis comporté de manière très enfantine, mais nous étions très jeunes. Et à certains égards, mais malheureusement, il s'en est fait une cible. Il était très, très jaloux, très difficile, très manipulateur. Et si vous faites cela dans ce genre de groupe de personnes, vous obtenez aussi bien que vous donnez. Pour être honnête, Je ne comprenais pas assez sa toxicomanie. Personne ne semblait en savoir beaucoup sur la toxicomanie des choses, comme le LSD était toute nouvelle. Personne ne connaissait le mal. Les gens pensaient que la cocaïne était bonne pour vous, mais...
Les maudites gangs sont morts du cœur à cause de ça.
Ah, ouais, c'est sûr. Là. Puis, tu sais, dans ces époques-là, c'était la drogue dure. Là. C'était pas comme... c'était particulier. Là. Le bassiste des Rolling Stones, Bill Wyman, jusqu'en 93, a mentionné, et je cite, « Il a formé le groupe. » Fait que dans le fond, c'est...
c'est un fondateur. Hein?
C'est un fondateur. Oh. C'est un membre fondateur. Fait que moi, mon hypothèse, là, j'ouvre une parenthèse. Là, mais moi, ce que je pense, là, c'est qu'il y avait de la jalousie de la part de Mick Jagger.
Ils ont drogué puis c'est noyé.
Il s'est peut-être passé quelque chose. Bref, voilà. C'est une théorie d'assassinat. Puis en parlant de théorie, ben, on pourrait y aller avec celle-ci.
Ouais, vas-y.
Donc, les théories concernant la mort de Brian Jones se sont développées par très longtemps après. Les associés de Stone affirmant avoir des informations selon lesquelles Jones aurait été assassiné. Selon la biographie du rock Phil Norman, la théorie du meurtre refait surface tous les 5 ans environ. En 1993, il a été rapporté que Jones avait été assassiné par un nommé Frank Thorogood, un constructeur qui effectuait des travaux de construction sur la propriété de Jones. Je vais ouvrir une parenthèse parce que ça me fait penser à genre... ce qui s'est passé avec Pamela puis Tommy.
Ouais, vas-y.
Genre, je ne sais pas si certains auditeurs Pam ont Tommy, vu ouais. cette émission-là, Pam and Tommy, mais la vidéocassette là, de leur sex tape, là, ça avait été fait aussi à cause d'un gars de construction. Fait que peut-être que le gars aussi n'a pas été payé, puis il a décidé d'en finir.
Ouais,
ça se peut très bien. T'sais. Bref, il était la dernière personne réputée avoir vu Jones en vie. Selon certaines sources, Thorogood aurait avoué le meurtre au chauffeur des Rolling Stones, Tom Kellogg, qui a nié plus tard. La théorie de Thorogood a été dramatisée dans le film Stone de 2005. Est-ce que tu l'as vu, toi?
Non.
Non, moi non plus, je ne l'ai pas vu. Thorogood aurait assassiné Jones dans une bagarre par cupidité. Il avait été payé 18 000 livres pour travailler à Cotchford Farm, mais il voulait 6 000 livres sterling de bonus dans la part des musiciens. Le meurtre aurait été dissimulé par des officiers supérieurs de la police quand ils ont remarqué comment l'enquête de la mort de Jones avait mal été faite par la police locale. Fait que j'ai l'impression qu'il y a bien du monde qui se sont fait payer pour fermer le gueule.
Ah, les pots de vin, il y en a toujours
eu. Ouais.
En août 2009, la police de Sussex a décidé de procéder à un examen du cas de la mort de Jones pour la première fois en 40 ans, après que de nouvelles preuves leur aient été remises par Scott Jones, un journaliste d'enquête, qui avait retrouvé de nombreux individus et témoins qui se trouvaient chez Brian Jones la nuit où il est mort.
Yes.
Le journaliste avait aussi trouvé des dossiers de police invisibles détenus aux archives nationales. En 2010, à la suite de l'examen, la police du Sussex a déclaré qu'elle ne rouvrirait pas le dossier Jones. Il a affirmé que cela a été soigneusement examiné par la direction de la politique et de l'examen de la criminalité de la police de Sussex, mais il n'y a aucune nouvelle preuve qui suggère que le verdict initial du coroner de mort par mésaventure était incorrect.
Donc là, Ben...
Ça reste à débattre.
C'est ça. Là, on va passer au troisième membre du club de 27, et nul autre que James Marshall Hendricks, né Johnny Allen Hendricks, dit Jimi Hendrix.
Oui.
Il est né le 27 novembre 1942 à Seattle, Washington, et il est mort le 18 septembre 1970 à Londres, en Angleterre, ce qui fait qu'il est décédé à l'âge de 27 ans et de 295 jours.
Il était connu pour être un guitariste, auteur, compositeur et chanteur américain, également devenu populaire en tant que fondateur du groupe anglo-américain de Jimi Hendrix Experience. Qui a, ben, d'ailleurs, c'est le fameux 45 tours que vous voyez là. Qui a joué de 66 et plus précisément jusqu'à la mort d'Hendrix en 70. Malgré une courte carrière qui n'a duré qu'à peu près 4 ans, Jimi Hendrix est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands joueurs de guitare électrique. Il est l'un des musiciens les plus influents et importants du 20e siècle.
Il en a influencé beaucoup.
Il jouait de la guitare avec ses nerfs.
Il faut dire que la plupart des styles musicaux qui se sont créés dans la décennie 70 se sont grandement inspirés de la musique de Jimi Hendrix. Puis je ne les blâme pas.
Exact. Bien qu'il soit mort le 18 septembre 1970, comme je l'ai dit tantôt, il y a une sorte de malentendu par rapport aux derniers jours à la mort d'Hendrix. Il passa une grande partie du 17 septembre 1970 avec sa copine de l'époque, Monica Denman. une patineuse artistique allemande de 25 ans, à Londres, la seule véritable témoin des dernières heures du vivant de Hendrix. Elle a déclaré qu'elle leur avait cuisiné un repas dans son appartement à l'hôtel Samarkand aux environs de 23 heures, alors qu'ils partageaient ensemble une bouteille de vin.
Elle a conduit Hendrix chez une connaissance vers 1h45 du matin, où il est resté à peu près une heure avant qu'elle ne vienne le chercher et les ramène à son appartement à 3h du matin, puis ensuite ils se sont couchés. Danneman s'est réveillé vers 11h du matin et a trouvé Hendrix qui respirait mais qui était sans connaissance. Elle a appelé les secours, une ambulance, à 11h18 et elle est arrivée à 9 minutes plus tard. Les ambulanciers paramédicaux ont transporté Jimi Hendrix à l'hôpital St. Mary Abbott et sa mort fut déclarée par le docteur John Bannister à 12h45 le 18 septembre.
Assez louche, par exemple, parce que de 11h à 11h20, c'est passé quoi?
Ouais, c'est ça. Là.
C'est 20 minutes, là, Chris, à dormir au gaz.
Ben, ça avait pas son affaire de secourir. Je sais pas, ça. On l'appelle, on lui demande.
Ouais, c'est ça. Le coroner au dossier Hendrix Carr, Kevin Thurston, a ordonné qu'une autopsie soit pratiquée et elle a été effectuée le 21 septembre. Par le médecin légiste Dr. Robert Donald Tear. Thurston a terminé l'enquête le 28 septembre et a conclu que Hendrix était mort asphyxié. En aspirant son vomi alors que Hendrix était intoxiqué au barbiturique. Dans le fond, là, c'est. Le même genre de mort que Crash Holly.
Ça ressemble à ça!
Citant des preuves insuffisantes des circonstances, Thurston a déclaré un verdict ouvert. Monica Damon a révélé plus tard que Jimi Hendrix avait pris 9 de ses somnifères, ce qui signifie, d'après certains médecins, qu'il a dépassé 18 fois la posologie. Sacrement!
Il en mettait-tu dans sa soupe? Ah,
mais c'est un gros consommateur.
Ah, hein? J'ai bien vu ça.
C'est des rumeurs là, qui disent, là, mais il semblerait là, que lui, il prenait beaucoup de buvards. Là, puis il se coupait le front, puis il mettait des buvards dans son...
buvards d'acide, c'est-tu?
Ouais.
C'est ça que mon frère m'est arrivé, il se mettait de l'acide.
Ouais, sorties, il se mettait genre? Des buvards non, en dessous de son bandeau.
Ça
alors. Ouais, il allait pas bien. Là.
Alors, c'est l'embaumeur Desmond Henley qui a embaumé le corps d'Hendrix, qui par la suite a été transporté par avion à Seattle, la ville natale du célèbre musicien, le 29 septembre. La famille et les amis de Jimi Hendrix ont organisé un service à l'église baptiste Dunlap de la Rainier Valley de Seattle le jeudi 1er octobre. Son corps a été enterré au cimetière de Greenwood dans la ville voisine de Renton, le même lieu où se trouve le cercueil de sa mère.
Mais Greenwood, c'est pas où est-ce que l'autre a été enterré tantôt.
Ah, ça se peut.
Ils sont tous dans la même place. Bon, c'est bizarre, ça. Ouais.
La famille et les amis ont voyagé dans 24 limousines et plus de 200 personnes ont assisté aux funérailles, dont les personnalités suivantes. Mitch Mitchell, Noel Redding, Miles Davis, John Hammond et Johnny Winter. Il y en a d'autres, mais là, j'en ai nommé quelques-unes.
Si je peux me permettre, là, j'ai juste revenu en arrière. Ben non, c'est vraiment à Greenwood. Fait que c'est vraiment louche, là. Que genre tout le monde a été enterré à Greenwood. Il y a quelque chose qui se passe à Greenwood qu'on ne sait pas.
C'est spécial.
Ah, ouais.
Ça doit être rendu à
celui-ci. Yes. Cependant, en 2009, près de 40 ans après sa mort, James Tappy-Wright, qui fut son assistant, a affirmé que Hendrix aurait été assassiné par son gérant Michael Jeffrey, qui lui aurait fait ingurgiter de force des pilules avec de la boisson.
Bon, ça c'est une théorie.
Il prête à Jeffrey les propos suivants. Je devrais le faire, Jimmy valait pour moi beaucoup plus mort que vif. Ce fils de pute allait me quitter. Si je le perdais, je perdais tout. On est en train dans la chambre d'hôtel de Monica. On a pris une poignée de pilules qu'on a fourrées dans la bouche de Jimmy et puis on lui a versé plusieurs bouteilles de vin rouge dans la gorge. Mais ça se peut, là.
Ouais, mais là, il s'incrimine en disant ça. Ouais, ben, à moins qu'il soit mort, il est peut-être mort, je sais pas s'il est mort.
Ouais, je sais pas, mais c'est fuck.
Il doit être mort parce que Crime, il l'aurait incriminé.
Ben, c'est sûr.
Crime, mais je te confesse un meurtre, tu m'enregistres, mettons. Tu vas porter ça à la police, ça te donne pas.
Ben oui.
Alors, mesdames et messieurs, la quatrième personne à être impliquée contre son gré dans ce groupe est la célèbre Janis Joplin, mesdames et messieurs.
Yes,
c'est vous voyez le CD qui est là, c'est son best-of, mesdames et messieurs. J'ai payé ça 8$ sur Archambault. Ah, mais dans le temps, ça devait valoir.
Ouais, ben ouais, ben oui.
Non, mais j'ai payé ça 8$. Je pense que c'était un spécial. J'ai... OK. Elle est née le 19 janvier 1943 à Port Archer, Texas, et morte le 4 octobre 1970 à Los Angeles, en Californie. Ce qui fait qu'elle est morte à 27 ans et 258 jours, mesdames et messieurs.
Yes, elle était connue en tant que chanteuse du groupe d'acid rock psychédélique Big Brother et The Holding Company, et plus tard comme un artiste solo avec ses groupes d'accompagnement, The Cosmic Blue Band et The Full Tilt Boogie Band. Elle portait souvent le nom de Mama Cosmic ou The Pearl.
Ah, je pensais ça, j'ai étudié 19 janvier 43 ou 19 octobre, c'est 19 janvier 43. 19, ok, je pensais que j'avais dit 19 octobre.
Peut-être. Cette chanteuse a marqué les esprits de, par sa voix et sa présence scénique électrique pour ses fans. Au sommet de sa carrière, elle est la reine de la soul psychédélique et Pearl pour ses amis. Elle fut également arrangeuse, peintre, danseuse et musicienne. Fait que c'est un artiste complet.
Ah, oh, moi je l'adorais. Là. C'était, ce CD-là, il y a le fun à écouter. Oh, je vous le recommande en tout cas. Précisons également que le grand magazine Rolling Stone a classé cette dernière au 46e rang sur sa liste des 100 plus grands artistes de tous les temps et à la 28e position parmi les 100 plus grands artistes, les plus grands chanteurs et chanteuses de tous les temps.
Yes!
Hey, c'est pas rien.
Hein? Non, c'est sûr. Le dimanche soir, 4 octobre 1970, Janis Joplin a été retrouvée sans vie sur le sol de sa chambre d'hôtel par son directeur de route, son roadie job dans le fond, et grand ami John Byrne Cook. Elle est décédée seulement 2 semaines après Jimi Hendrix.
Ouais, ça n'a pas été trop long.
C'est bizarre, ça.
Ça suit de plus en plus. Il y avait de l'alcool dans la chambre de Joplin. Les journaux ont rapporté qu'aucune autre drogue ou attirail n'était présent sur les lieux de la découverte du cadavre de Mme Joplin. D'après un livre de 1983 écrit par Joseph Dimona et le coroner du comté de Los Angeles, le docteur Thomas Noguchi, que l'on peut voir, entre autres, dans le film Face à la mort. Tu sais, la pose de la morgue, là, dans Face à la mort.
Ouais.
Le genre de chinois-japonais, là, le docteur Noguchi. Là. Lui, il a fait des autopsies, genre de Monroe, puis de Natalie Wood. Tu sais, toutes les gros stars de l'époque. Là. C'est pas mal lui qui a fait,
qui a fait ça. Wow.
Ben, c'est ça, c'était le coroner de Los Angeles.
OK.
Le docteur Noguchi, les preuves de stupéfiants ont été enlevées de la pièce par un ami de Joplin. Et remise plus tard, après que la personne a fini par comprendre qu'une autopsie allait révéler que des stupéfiants étaient présents dans le corps de l'artiste.
Puis dans le fond, le livre ajoute qu'avant la mort de Joplin, le docteur Noguchi avait enquêté sur d'autres surdoses mortelles de drogue à Los Angeles, où les amis croyaient qu'il était corrompu en rendant service aux personnes décédées en supprimant les preuves de stupéfiants. Puis ils ont bien repensé à leur affaire et sont revenus pour remettre les preuves. Noguchi a pratiqué une autopsie sur Joplin et a conclu que la cause du décès était une overdose d'héroïne qui peut avoir été empirée par de l'alcool. Fait que c'est un heureux mélange qui a fait en sorte qu'elle a pété aux frites, dans le fond. John Byrne Cook pensait que Joplin avait reçu de l'héroïne beaucoup plus forte que ce qu'elle aurait dû avoir, dans le fond, puis avait reçu lors d'une autre occasion auparavant. Comme l'ont indiqué les overdoses de plusieurs autres personnes de sa cliente au cours du même week-end. Sa mort a été jugée accidentelle, mais c'est fou pareil comme quoi la personne est morte, puis après ça, ils ont tellement cherché là, qu'ils ont même été voir genre le pusher qui avait fourni pour savoir c'est quoi que normalement il donnait.
Ouais, mais c'est ça, on parle de 1970, à ce temps, tu le saurais tout de suite. Là. Mais là, c'est on parle de... Ben non, mais à ce temps, quand tu veux savoir de quoi...
Je sais pas, en tout cas.
Peggy Caserton, bonne amie de Joplin, et Seth Morgan, le fiancé de Joplin, n'avait pas rencontré Joplin le vendredi 2 octobre, soit 2 jours avant sa mort. Joplin s'était attendu à ce qu'ils lui tiennent compagnie tous les deux ce soir-là.
Mm-hmm.
Selon Caserton, Joplin avait de la peine et avait de la peine qu'aucun de ses deux amis ne lui rende visite au Landmark comme c'était supposé. Pendant les 24 heures que Joplin a vécu après ce chagrin, Caserta ne l'a pas appelée pour lui expliquer pourquoi elle n'était pas venue la voir. Caserta a admis avoir attendu jusqu'à tard samedi soir pour téléphoner au Standard Landmark, seulement pour apprendre que Joplin avait demandé au réceptionniste de ne pas accepter les appels entrants pour elle après minuit. Morgan a parlé à Joplin au téléphone dans les 24 heures avant sa mort, mais le contenu de cet appel reste mystérieux.
Cassata a toujours insisté sur le fait que la mort de Joplin n'était pas une overdose accidentelle, mais plutôt le résultat de l'entaille à la tête subie après le talon sablier de sa sandale à bride arrière pris dans le tapis à poils longs, lui faisant perdre l'équilibre. Caserta admet cependant que la drogue et l'alcool ont pu jouer un rôle important. Dans le fond, il a probablement perdu l'équilibre. Parce que c'est
peut-être bon, je suis pas
Joplin a été incinéré au Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park au N Mortuary à Los Angeles. Et ses cendres ont été dispersées d'un avion dans l'océan Pacifique. C'est malade, pareil.
À ce temps, je pense qu'ils font plus ça, jeter des cendres dans l'eau. Je pense qu'ils ne peuvent plus faire ça. Le cinquième membre est James Douglas Morrison, dit Jim Morrison. Il est né le 8 décembre 1943 à Melbourne, Florida, et non Australie. Mm-hmm. Et mort le 3 juillet 1971 à Paris, en France, ce qui fait qu'il est décédé à 27 ans et 207 jours. Il était connu en tant que cofondateur du groupe de rock américain The Doors, dont il fut le chanteur et leader de 1965 à sa mort en 1971. Morrison avait le charisme d'un sex symbole provoquant au comportement très excessif, devenu une véritable idole du rock, mais aussi grandement impliqué dans le mouvement du protest song, surtout contre la guerre du Vietnam. Il ne revendique cependant aucune opinion politique. Attiré par le chamanisme, on lui attribue une réputation de poète maudit, que sa mort prématurée à Paris, dans des circonstances nébuleuses, même après 50 ans, mesdames et messieurs.
L'acteur Val Kilmer l'a incarné au grand écran en 1991 dans le film intitulé The Doors d'Oliver Stone.
Ah, c'est excellent ce film.
Je ne l'ai pas écouté. Ah, également, le lutteur John Hedigan lui rend hommage depuis juillet 2007 en se faisant appeler John Morrison.
Ah ben oui!
il a même la coupe de cheveux que lui a nommé sa prise de finition le Moonlight Drive, du même nom que la chanson des Doors.
Moonlight Drive! Je l'ai dit pas pire, la voix?
Oui, pas pire. Le 3 juillet 1971 à Paris, Morrison a été retrouvé mort dans la baignoire de l'appartement vers 6h du matin par sa petite amie Pamela Corson. Il avait 27 ans. Trois théories ont été révélées par rapport à son décès.
La première théorie! La crise cardiaque à domicile. Aucune autopsie ni examen biologique n'ont été pratiqués sur la dépouille du chanteur Morrison, la cause officielle de sa mort étant une crise cardiaque. Morrison a vécu à 100 000 à l'heure et a foiré pendant 6 ans de temps. Il prenait beaucoup d'alcool, participait souvent à des orgies et se vantait à tout le monde d'avoir pris 200 fois de l'acide. Pardon. Crédite cette version des faits. Des témoins, notamment son ami Alain Roney, ont mentionné qu'il était suivi de près par un cardiologue et qu'il démontrait des signes d'insuffisance cardiaque, d'œdème pulmonaire et de profonde dépression. La veille de sa mort, difficulté à respirer, tout avec des motons de sang, ok. En tout cas,
la version officielle entre... Ben, il y avait peut-être le sida.
Peut-être aussi. Non, mais on ne sait pas.
La version officielle entretenue par l'association Morrison et Patricia de la crise cardiaque dans son bain est la plus souvent mentionnée car elle correspond à ce que le personnel médical a finalement conclu. On pourrait passer, dans le fond, aux deux, parce qu'il y a tellement de stock, là, c'est assez intense. L'overdose fatale. Des témoins affirment avoir aperçu le chanteur ce soir-là dans un bar parisien branché de la rive gauche, le Rock'n'Roll Circus. D'après cette version, Morrison venu chercher de l'héroïne pour Pamela Corson auprès de deux hommes travaillant pour Jean de Breteuil, dealer alors connu des services policiers, auraient délibérément pris de l'héroïne pure et seraient décédés par la suite d'une overdose dans les toilettes du bar. Par peur du scandale et de la fermeture administrative du bar, elle aurait été ramenée en voiture déjà mort jusqu'à l'appartement. Ben, ça se peut, ça.
Parce que ça, je l'ai déjà entendu et je l'ai déjà lu à quelque part.
La troisième théorie, mon Ben...
OK, troisième théorie, c'est les théories d'une overdose politiquement étouffée ou d'un Jim Morrison qui serait toujours vivant, tu sais, comme Elvis, comme Michael Jackson. En 2014, Marianne Faithfull, qui était au moment des faits la conjointe de Jean de Breteuil, pusheur d'héroïne et de cocaïne du couple Morrison, croit que Jean de Breteuil... Il faut qu'il y ait des mots bizarres, on peut pas avoir de la misère à lui. A tué Morrison en lui fournissant une dose d'héroïne pure et donc trop forte provoquant son overdose. On s'étonne du caractère très sommaire de l'enquête de police, Aucune autopsie n'est pratiquée alors qu'elle est la plupart du temps obligatoire, du moins recommandée en cas de mort violente ou inexpliquée. La mort de Jim Morrison pouvait facilement être associée aux importants réseaux internationaux de trafic de cocaïne et d'héroïne sur Paris à l'époque et de la fuite concomitante au Maroc de Jean de Breteuil, là où ce fils d'homme très haut placé bénéficiait de facilités diplomatiques grâce à son père, Charles de Breteuil.
En gros, c'était le petit gars qui chiait pas de marbre.
C'est ça. Fait que là, on va parler du septième membre du club des 27. Donc, le défunt Kurt Donald Cobain, dit Kurt Cobain, qui est né le 20 février 1967 à Aberdeen, dans l'État du Washington.
Et c'est là que Daniel Bryan vient, je pense.
Est mort le 5 avril 1994 à Seattle, dans l'État de Washington, ce qui fait qu'il était âgé de seulement 27 ans et 44 jours.
Il s'est fait connaître en tant que fondateur et chanteur et leader du groupe Nirvana, le groupe grunge Nirvana, qui a vu le jour en 87. Dans le début de l'année 90, Nirvana s'est taillé une place dans la musique grunge, un style musical mélangé de rock alternatif, de punk et de hard rock, et ce, au même titre que Pearl Jam, Alice in Chains et Soundgarden, les quatre Seattle Four, le grunge Four,
le Big Four. Le groupe s'impose aux deux ans. En 91, son second et plus important album, Nevermind, devient l'un des albums les plus vendus de la planète avec plus de 30 millions d'exemplaires écoulés. Et qui s'écoute encore très bien aujourd'hui.
Oh, ouais, ça
durant les dernières années de sa vie, Kurt Cobain lutte contre sa dépendance à la drogue, surtout à l'héroïne, parce qu'on se souvient, à cette époque-là, hein, il fallait qu'il gèle la bine jusqu'à temps qu'il soit plus capable de respirer. Et je ne sais pas pourquoi hein, qu'il fallait qu'il se rende jusque-là.
Mais il y avait une théorie, par exemple, Joe, qu'il en avait souvent parlé, et puis ça, j'ai écouté ça dans plusieurs affaires. Ça a l'air qu'il y avait des problèmes d'estomac. Que quand il prenait de la drogue, que ce soit l'héroïne ou de la poudre, n'importe quoi, là, ça le soulageait à ses maux d'estomac-là. Il n'était pas heureux s'il ne prenait pas de la drogue.
Là. Il subit avec son épouse, la chanteuse du groupe Courtney Love, de 3 ans, son aînée, beaucoup de pression médiatique. Fait que ça arrête le stress, tout ça. Tu sais,
ouais, ça se peut. Là. Le 8 avril 1994, un électricien du nom de Gary Smith, qui venait installer un système de sécurité dans la maison du défunt, fait la macabre découverte du cadavre de Kurt Cobain dans une pièce située au-dessus du garage de la maison du couple Cobain Love à Seattle, Washington.
Avec le chef d'orchestre David Woodard est construit un Dream Machine pour Cobain. Les rapports selon lesquels Cobain avait utilisé l'appareil psychoactif de manière excessive dans les jours avant sa mort. C'est quoi ça, le Dream Machine? Il faudrait faire des recherches, mais on revient. Avant sa mort, ont été contredits par des découvertes bien après. La police trouve près de la dépouille une lettre de suicide et l'arme, un fusil de calibre M11, acheté par son ami Dylan Carlson à la demande de Cobain, ne voulant pas acheter l'arme à son nom par rapport à l'incident du 18 mars précédent. Le drame, c'est que dans le fond, je pense qu'il avait utilisé des armes qui étaient... Il a déjà, dans sa vie, il a déjà utilisé des armes, il n'avait plus le droit d'en acheter. Fait que, tu sais, dans sa lettre d'adieu adressée à Bouddha, parce qu'il était bouddhiste, lui, avec.
Ah, Bouddha. Ah, mais son ami imaginaire.
Ouais, son ami imaginaire d'enfant, Kurt Cobain, cite une phrase à la chanson Hey, hey, my, my, Heart of the Blue, de Neil Young. Mieux vaut brûler franchement que s'éteindre à petit feu. Neil Young est touché par cette citation et écrit une partie de son album 1994, Sleeps with Angel, en hommage à Kurt Cobain.
Deux jours plus tard, mesdames et messieurs, une veillée ouverte au public s'est organisée au parc d'attractions Seattle Center. À peu près 7000 personnes y assistent. Des messages préenregistrés de Kristen Novoselitz et Courtney Love y sont diffusés. Lorsqu'elle prend la parole au micro, Courtney Love lit des bouts de la lettre d'adieu. En les commentant, elle reproche à Kurt Cobain sa décision. Il va jusqu'à l'insulter devant tout le monde à la fin de la veillée. Elle donne des vêtements qui ont appartenu à son défunt mari.
Elle ne devait pas être à jeun quand elle
dit. Non, mais c'était un couple qui était particulier.
Ah, c'était fait de l'eau de Javel.
Ouais, c'est
ben, ça. Façon de parler.
D'après la détective privée Tom Grant, qui fut engagée par Courtney Love pour trouver son mari après sa disparition du centre de désintoxication quelques jours avant son décès, la cause de la mort de Cobain serait en fait un meurtre et non un suicide. Les principaux arguments de Grant sont les suivants. La quantité d'héroïne présente dans le corps, Grant cite un chiffre publié dans un article du 14 avril 1994 censé provenir du rapport toxicologique officiel. Le taux d'héroïne présent dans le flux sanguin, il était beau, il était à 1,52 mg. Ils disent que l'artiste n'aurait pas été capable de mettre fin à ses jours avec un fusil après s'être injecté doses bien trop fortes pour avoir toutes ses facultés intellectuelles. Cependant, plusieurs études concernant l'héroïne ont montré qu'il est bien difficile d'évaluer la dose qu'un toxicomane peut supporter. En 2004, dans le cadre de l'émission Dateline NBC, magazine d'actualité de la chaîne américaine NBC, cinq médecins légitiques ont été questionnés par rapport au connu dans le rapport de toxicologie. Deux d'entre eux ont été évoqués l'hypothèse que Kurt ait développé une tolérance suffisante pour appuyer sur la gâchette malgré une forte dose d'héroïne, tandis que les trois autres ont déclaré qu'ils n'avaient pas assez d'informations pour se prononcer. Grant ne pense pas que Cobain ait été tué par la dose d'héroïne, mais suggère plutôt qu'elle lui aurait été injectée pour l'empêcher de se défendre pendant que le meurtrier était en train de l'abattre.
Il y a également une autre théorie, c'est la lettre d'adieu. Lorsqu'il travaillait au service de Courtney Grant a eu accès à l'original de la lettre d'adieu de Kurt Cobain. Il en a fait une copie qui a depuis le temps fait le tour de bien des gens. Selon Grant, Kurt n'aurait pas voulu écrire dans cette lettre ses adieux à ses proches avant de s'enlever la vie, mais plutôt y annoncer son intention de se séparer de Courtney Love, de Seattle et de l'industrie musicale. Grant pense que les dernières lignes de cette lettre sont les seules qui évoquent vraiment un suicide et que leur style diffère beaucoup du reste de la note, suggérant qu'elle aurait pu être écrite par une autre personne. La version officielle à l'issue de l'enquête officielle est que Kurt Cobain est bien l'auteur de cette lettre, conclusion rejetée par Grant car le rapport mentionne le texte dans son ensemble, et qu'aucune attention particulière ne semble avoir été portée à ces lignes douteuses. Grant affirme que sa thèse est soutenue par certains experts en écriture, par contre d'autres experts se sont montrés d'un autre avis. Sur les quatre experts consultés par Dateline NBC, un seul a affirmé que l'ensemble de la lettre était écrite par Cobain, les trois autres ayant affirmé ne pas disposer assez d'éléments pour se prononcer. Un expert interrogé pour l'émission Unsolved Mystery, dossier mystère aux États-Unis, a fait remarquer qu'il était bien difficile de se prononcer car le document étudié était une photocopie et non l'original.
Yes. On va passer, au septième et dernier membre de notre... parce qu'on est déjà rendu à plus de 40 minutes de notre truc. Le septième et dernier membre de ce groupe maudit est Amy Winehouse, qui est née le 14 septembre 1983 à Londres et mort le 23 juillet 2011 à Londres également. Ce qui fait qu'elle est morte à 27 ans, elle aussi, mais à 312 jours, fait que presque 28.
Ouais, celle-là qui est morte la plus vieille.
C'est ça.
Elle était une chanteuse, auteure, compositrice, interprète et guitariste britannique, connue pour sa voix caractéristique, souvent comparée à celle de Dinah Washington, Sarah Vaughan ou encore Wanda Jackson. En gros, la musique de Winehouse était un mélange de styles comme le jazz, le blues ou encore le soul. C'est une artiste qui fut beaucoup médiatisée par son apparence, particulièrement sa coiffure, ses tatouages et son maquillage appuyé à l'eyeliner, et a inspiré plusieurs stylistes. La chanteuse connaît également des problèmes de dépression, de toxicomanie, d'alcoolisme et de boulimie, largement relayés par les tabloïds à partir de 2007.
La garde du corps de Winehouse a déclaré qu'il était arrivé au domicile de la chanteuse trois jours avant sa mort et a estimé qu'elle avait été un peu intoxiquée. Il a observé qu'elle avait bu de la boisson avec modération au cours des jours suivants et a déclaré qu'elle avait eu du fun à écouter de la musique et regarder de la télévision à 2h du matin le jour de son décès.
À 10h, heure d'été du Royaume-Uni, le 23 juillet 2011, il a observé étendu sur son lit
et a tenté de la réveiller,
mais sans succès. Ouais, on parle du garde du corps,
oh, c'est ça? Ouais.
Cela ne soulevait pas beaucoup de craintes car elle avait l'habitude de dormir tard après une brosse. Selon le garde du corps, peu après 15 heures, il a de nouveau été voir dans la chambre de Winehouse et l'a observé. Elle était encore allongée de la même manière qu'auparavant, ce qui a semé un certain doute sur l'état de santé de la chanteuse, au cours duquel il a conclu qu'elle ne respirait plus et n'avait plus de pouls. Il a dit qu'il a appelé les services d'urgence à 15h54. Mm-hmm. Deux ambulances ont été appelées au domicile de Winehouse à Camden, à Londres. Winehouse a été déclarée morte sur les lieux même de sa découverte. Quelques instants plus tard, la police londonienne a confirmé qu'elle était morte.
Après l'annonce du décès d'Amy Winehouse, les médias et les équipes de tournage sont parus. Alors que plusieurs fans se rassemblaient près de domicile de Winehouse pour lui rendre un hommage, les enquêteurs médico-légaux sont entrés dans l'appartement alors que la police a fait un périmètre de sécurité depuis la rue à l'extérieur. Ils ont récupéré une petite et deux grandes bouteilles de vodka comme pièce à conviction dans sa chambre. Après sa mort, Winehouse a battu son deuxième record du monde, Guinness, pour le plus grand nombre de chansons d'une femme apparaître simultanément dans le classement des singles britanniques avec le nombre de 8.
Une enquête du coroner a abouti à un verdict de mésaventure. Le rapport publié le 26 octobre 2011 expliquait que la teneur en alcool dans le sang de Winehouse était de 416 mg par 100 ml, 0,416%, au moment de son décès. Ce qui veut dire plus de 5 fois la limite autorisée par la loi britannique d'alcool au volant. Selon le coroner, les conséquences imprévues de ces niveaux potentiellement mortels ont été sa mort soudaine.
Le label de Winehouse Universal Republic a publié une déclaration qui disait en partie « Nous sommes profondément attristés par la perte soudaine d'une musicienne artiste et interprète aussi douée. Plusieurs artistes de la musique ont depuis rendu hommage à Winehouse, dont U2, Maya, Lady Gaga, Marianne Faithfull, Bruno Mars, Nicki Minaj, Keisha Buchanan, Rihanna, George Michael, Adele, Kelly Clarkson, Courtney Love et le groupe punk rock Green Day qui ont composé une chanson à son hommage intitulée « Hey Me ». Dans son album « Banga » de 2012, la chanteuse Patti Smith a sorti « This is the girl ». Écrit en hommage à Winehouse, Mike Ronson a dédié son album numéro 1 au Royaume-Uni, Uptown Special, à Winehouse, déclarant « Je pense toujours à vous et je suis inspiré par vous ».
La défunte chanteuse n'a pas laissé de testament. Sa succession a été héritée par ses parents. Par la suite, les parents de Winehouse ont créé la fondation Amy Winehouse afin de sensibiliser les gens des méfaits de l'abus de drogue chez les jeunes. Son frère Alex est employé dans cette fondation.
Bon, là, il travaille, il s'implique dedans. Là.
Le 17 décembre 2012, les autorités britanniques ont réouvert l'enquête sur le décès de Winehouse. Le 8 janvier 2013, une deuxième enquête a confirmé que Winehouse était décédé d'une intoxication accidentelle à l'alcool, un peu comme Jenny Lane, la chanteuse de Rarent, le 11 août de la même année. Dans une entrevue réalisée en juillet 2013, près de 2 ans après la mort de sa sœur, Alex Winehouse a révélé sa fameuse théorie que le trouble d'alimentation de sa sœur et la faiblesse physique qui en a résulté était la principale cause de sa mort.
Faut ajouter qu'elle souffrait beaucoup de boulimie. Ce n'est pas comme une révélation. Vous saviez juste en la regardant, elle se remonte finalement comme elle allait, mais ce qui l'a vraiment tuée, c'est la boulimie. Je pense que ça l'a laissée plus faible et plus sensible. Si elle n'avait pas eu de trouble d'alimentation, elle aurait été physiquement plus forte.
Exactement.
C'est particulier pareil. Là.
C'est une malédiction. Hein, ils sont tous morts dans la gloire à part de ça. Là.
Oh oui, dans leur top.
Dans leur pic, comme on dit.
Alors, c'est ici que se termine l'émission spéciale du Club du 27. J'espère que vous l'avez apprécié. Donc, mon nom est Jonathan Drapeau. J'étais avec mon collègue de toujours, Benoît Laferrière, a.k.a. Nastradaben.
Alors, merci d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas de marquer dans vos commentaires si vous avez adoré. N'hésitez pas de faire un thumbs up. Et nous allons nous retrouver très bientôt pour un éventuel Wrestle Rock podcast. Soyez-y, l'action ne manquera pas.
Au revoir.
Oh, il a fallu couper en deux.
Ouais, parce
on aurait dû le faire en deux parties ce soir.
Mais moi, je savais, en voyant l'épaisseur des feuilles,
ouais. Je savais que ça allait être bon. Ah, il y a des mots, Chris, qui sont de